Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, un président américain en exercice franchit la ligne de démarcation entre les deux Corées historiques. Poignée de main, Donald Trump, Kim Jong-un, un symbole improvisé, il est permis d'en douter. Récit de Frédéric Jardias et décryptage du spécialiste Antoine Bondaz. Nous serons dans un instant en ligne de Bruxelles avec Angélique Bouin pour prendre la mesure de l'importance du sommet de ce dimanche, d'où sortiront les noms des futurs dirigeants des instances européennes. Et puis la face cachée du globe, signée Nabila Hamel, s'intéresse à la reconstruction de la ville irakienne de Mossoul. Reprendre langue et prendre date sous les feux de la rampe, mission accomplie pour le président des États-Unis et le leader nord-coréen, élu tout à fait officiellement. D'abord une impulsion de Donald Trump, twittocrate de premier ordre. Ensuite, Pyongyang a fait mine d'exiger un Bristol officiel. Ce matin, Kim Jong-un est venu à la rencontre de Donald Trump dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, crépitement des flashs, amabilité immortalisée et, c'est là l'essentiel, une reprise des pourparlers dans les semaines qui viennent. Frédéric Jardias nous appelle de Séoul.
La simple poignée de main suggérée hier par Donald Trump s'est transformée en un véritable sommet. Près d'une heure de discussion entre le président américain, le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen. Donald Trump a réussi son coup. Il s'est fait prendre en photo avec Kim Jong-un du côté nord de la frontière. Il a invité le leader suprême nord-coréen à la Maison-Blanche. Tout n'était que sourires et déclarations de bonnes intentions. À l'issue du sommet, le président américain a assuré que les négociateurs des deux camps allaient se rencontrer d'ici 2 ou 3 semaines pour reprendre leur pourparlers nucléaire. C'est un pas dans la bonne direction. Cela signifie que Pyongyang est prête à reprendre ses discussions interrompues depuis février. Mintaro Oba, un ancien diplomate américain, parle de diplomatie du défibrillateur. Donald Trump maintient en vie le processus de dialogue à travers des coups d'éclat. Le problème, c'est que ni lui ni Kim Jong-un ne semblent prêts à faire les compromis nécessaires pour résoudre fondamentalement la crise nucléaire.
Pour décrypter cette entrevue, Clément Fraioli a sollicité Antoine Bondaz, responsable du programme Corée à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
En termes de communication, on est dans ce que Donald Trump fait depuis plusieurs mois avec la Corée du Nord, c'est-à-dire obtenir des images fortes et sans précédent qu'il peut ensuite vendre à son électorat. Il ne faut pas oublier que l'élection présidentielle américaine sera dans un an. Deuxièmement, sur le côté politique, il ne faut pas attendre grand-chose de ce sommet, même s'il permet, et c'est positif, de relancer les négociations au niveau de ce qu'on appelle les négociateurs. Alors on n'a aucun élément sur l'aspect technique qui aurait été négocié à Panmunjom. Les Américains ont comme objectif final ce qu'on appelle la dénucléarisation et le démantèlement complet, vérifiable et irréversible du programme nucléaire et balistique nord-coréen. Côté nord-coréen, on demande notamment la levée des sanctions, notamment celles qui ont un caractère économique, c'est-à-dire celles qui ont été adoptées entre 2016 et 2017. Le grand problème, c'est que pour l'instant, Washington et Pyongyang ont été incapables de trouver un accord qui permette de satisfaire les deux parties. Alors, cette rencontre historique à Panmunjom, elle est tout de même très importante pour maintenir la stabilité dans la péninsule. On se rappelait qu'en 2017, les tensions étaient extrêmement vives. Un des objectifs de la Corée du Sud et du président Moon Jae-in est notamment de parvenir à la signature d'un traité de paix. Si on en est encore loin, il y a en tout cas des images qui sont positive, puisqu'il faut le rappeler, c'est encore une fois la première fois qu'un président américain et un dirigeant nord-coréen se rencontrent à la zone démilitarisée, qui est, il faut le rappeler, le symbole de la guerre de Corée.
Antoine Bondaz de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Le renouvellement de la haute hiérarchie européenne, c'est le cahier des charges d'un sommet qui s'ouvre cet après-midi à Bruxelles, avec des dirigeants à la manœuvre depuis des semaines pour placer leurs candidats et peser de tout leur poids sur les chambres et instances de la présidence du Parlement de Strasbourg à celle de la Banque Centrale. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, Angélique, quels postes sont concernés par ce sommet ?
Eh bien, le poste le plus important et celui sur lequel d'ailleurs s'est concentrée l'attention des négociateurs ces dernières semaines, c'est celui d'abord de la présidence de la Commission. C'est l'organe exécutif de l'Union. Il a un quasi-monopole pour proposer des lois. Il veille au respect des traités. Le président ou la présidente dirige une sorte de gouvernement, les 27 commissaires, un par pays, chacun héritant d'un portefeuille distinct, la concurrence par exemple, pour Margrethe Vestager, des portefeuilles qui couvrent en fait l'ensemble des champs de compétences de l'Union, les affaires économiques, l'agriculture ou encore le numérique, poste occupé par Jean-Claude Juncker, qui est également en quelque sorte le visage de l'Europe dans le monde. 4 autres postes clés à la tête des institutions sont à pourvoir dans ce qui s'apparente à un grand mercato. La présidence du Conseil européen, cette instance qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, ce sont eux qui définissent les grandes orientations politiques. Ce président ou cette présidente a toujours a pour principale fonction de trouver des compromis entre les dirigeants. Mais il est peu connu, c'est l'Italien Antonio Tajani qui occupe ce poste en ce moment. Son mandat est de 2 ans et demi, renouvelable une fois. Tout comme celui du président du Parlement, 3e poste à pourvoir. Il dirige les travaux de l'institution. Et précisons que ses pouvoirs se sont progressivement renforcés ces dernières années, en particulier depuis le traité de Lisbonne. Doit également être désignée la personne qui sera le ou la chef de la diplomatie européenne, fonction créée il y a 10 ans et occupée par Federica Mogherini. Et puis, hasard du calendrier, il faut renouveler cette année le mandat du président de la Banque Centrale Européenne, mandat unique de 8 ans qui arrive à échéance, celui qu'on désigne comme l'homme fort de l'euro ou la femme, élabore et met en œuvre la politique budgétaire.
Angélique, qui en piste au juste et avec quelles ambitions? On peut commencer par la France.
Oui, on a beaucoup parlé du français Michel Barnier, qui était pressenti pour diriger la présidence de la Commission. C'est celui qui a mené les négociations sur le Brexit. Il est très respecté à Bruxelles et était donc présenté ces dernières semaines comme un candidat officieux de recours si l'Allemand Manfred Weber, fléché par la famille de la droite européenne arrivée en tête aux élections, n'obtenait pas le poste. La France a aussi des ambitions sur la Banque Centrale Européenne. Mais tout cela va donc se négocier ou tenter de se négocier ce soir ou demain autour de la table du Conseil. Et il y a deux logiques qui s'affrontent, celle des dirigeants qui estiment que le choix de la présidence de la Commission leur revient vraiment en premier lieu. En marge du sommet d'Osaka, certains d'entre eux ont donc déjà avancé sur leurs propositions. L'Allemand Manfred Weber ne serait plus dans la course. Selon plusieurs sources, il aurait renoncé en échange du poste de président du Parlement. Et on évoque, plutôt que Michel Barnier, le nom du social-démocrate Frans Timmermans pour la Commission. Mais il faut compter avec le Parlement et les chefs des 4 familles politiques arrivés en tête des élections. De ce côté-ci, on estime que rien n'est encore joué, car pour pouvoir obtenir la présidence de la Commission, rappelons qu'il faut 21 des 28 voix côté chef d'État et de gouvernement, mais aussi la majorité des eurodéputés. Une double majorité, donc difficile à obtenir. Le mercato doit aussi tenir compte des équilibres géographiques européens sur les 5 postes. Petits et grands pays doivent être représentés, Est-Ouest ou Nord et Sud. Et il faut enfin viser la parité homme-femme. Autant vous dire que l'équation est compliquée.
Supérieurement complexe. Merci à vous pour toutes ces précisions. Angélique Boin, en direct de Bruxelles. Les états-majors des partis politiques français, eux, se mettent en ordre de marche en vue des municipales du printemps prochain. Yann Brossa sera le chef de file du Parti communiste, l'adjoint de la maire de Paris, a officialisé sa nomination ce matin. Chez les Républicains, c'est plus compliqué. La succession de Laurent Wauquiez sera tranchée à l'automne. Une 3e candidature déclarée à la présidence du LR, celle du député du Vaucluse Julien Aubert, dépositaire selon lui d'une ligne gaulliste, patriote, républicaine mais aussi populaire. Fin de citation. En Libye, Gariane restera le symbole de l'échec de l'offensive sur Tripoli du maréchal Khalifa Haftar. Ses troupes ont fui cette ville qui était leur centre des opérations. Gariane, base arrière d'où ses forces attaquaient la capitale depuis plusieurs mois. Autre déconvenue pour Haftar, des soldats du gouvernement d'Union nationale de Fayez Sarraj ont découvert au cours des derniers combats pour la reprise de Gariane dans des hangars. Des missiles de fabrication américaine et chinoise. Aujourd'hui, les autorités japonaises se retirent officiellement de la commission baleinière internationale. Tokyo avait annoncé en décembre dernier que la chasse à la baleine allait reprendre au mois de juillet, plus de 30 ans après y avoir renoncé. Mais c'est surtout la fin d'une hypocrisie, car cette pêche n'a en effet jamais cessé. Sandy Dauphin.
La viande de baleine n'a jamais disparu des étals, car Tokyo a exploité pendant des années une faille dans le moratoire international sur la chasse à la baleine décrété en 1986. Les baleiniers continuaient de partir en mer sous prétexte de faire des prélèvements scientifiques de cétacés. Le Japon va donc continuer la chasse à la baleine, mais cette fois ouvertement dans ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive. Il promet de ne pas pêcher dans l'océan austral. C'est d'ailleurs la seule consolation pour les défenseurs des baleines, car c'est là que ces mammifères marins viennent se nourrir. C'est un peu leur résidence d'été. Tokyo soutient que la plupart des espèces chassées ne sont pas menacées d'extinction et que la pratique fait partie de la culture nippone depuis le XIIe siècle. Mais aujourd'hui, la consommation de chair de baleine est dérisoire. 0,1% de la consommation totale de viande d'après le grand quotidien nippon Asahi. Et aujourd'hui, les activités humaines menacent plus que jamais les baleines. Prises accidentelles dans les filets de pêche, collisions avec des cargos, le bruit sous-marin, sans compter la pollution plastique.
Merci à vous, Sandy Dauphin. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Depuis ce que les autorités qualifient de putsch avorté, 260 personnes ont été arrêtées en Éthiopie. Il s'agit en grande partie de membres et sympathisants d'un parti nationaliste Amara, récemment créé, a rappelé que trois hauts responsables de la région Amara, au nord d'Addis Abeba, dont le président de la région, ont été tués samedi dernier. Quelques heures plus tard, on apprenait la mort du chef d'état-major de l'armée éthiopienne, tué par son garde du corps alors qu'il organisait la riposte. À chaque fois qu'il en a l'occasion, le Japon supplie Londres de ne pas quitter l'Union européenne sans accord. Dans une interview à la BBC jeudi, Taro Kono, le chef de la diplomatie japonaise, déclarait redouter les conséquences d'un Brexit brutal pour ses entreprises implantées au Royaume-Uni. Il y en a plus d'un millier. La Cour constitutionnelle indonésienne était le dernier recours de l'ex-général Prabowo Subianto pour contester la victoire du chef de l'État sortant Joko Widodo à la présidentielle du 17 avril. L'ex-militaire, qui depuis 15 ans tente d'arriver au pouvoir, devra se résigner. Sa plainte pour fraude systématique, structurée et massive a été rejetée. 47 000 militaires et policiers ont été déployés jeudi à Jakarta avant le verdict de la Cour constitutionnelle. Deux ans après avoir été libéré de l'État islamique, Mossoul peine à se remettre debout. La ville irakienne a subi des destructions d'une telle ampleur, Nadine Epstein, qu'après 24 mois, malgré l'aide massive de la communauté internationale, les manques et l'insécurité règnent.
La reconstruction de la deuxième ville d'Irak va prendre beaucoup de temps. 60% des habitations détruites, les écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts impraticables. Le curé de Mossoul, devenu en 2018 l'archevêque chaldéen de Mossoul et Accra, Najib Mikael, est retourné vivre à une vingtaine de kilomètres de la ville.
Nous vivons avec beaucoup de craintes encore et beaucoup d'inquiétudes, mais avec beaucoup d'espoir en même temps. Mossoul, c'est une ville détruite, une ville antique, historique, deux fois millénaire, l'ancien empire, quatrième et dernier empire assyrien en Irak, en Mésopotamie. Aujourd'hui, tout est par terre. Nous avons mis à l'abri au Kurdistan, le seul endroit de paix aujourd'hui en Irak. Plusieurs milliers de manuscrits que nous avons sauvés et je ne serai jamais capable de les remettre aujourd'hui de nouveau à Mossoul. Ça se voit et ça se montre que nous avons encore peur parce que le problème Daesh n'est plus là militairement, mais l'idéologie de Daesh, de l'État islamique, est toujours là. Aujourd'hui, la majorité des gens qui ont des milices, qui ont des armes à la main, c'est eux qui contrôlent le pays. Donc il y a la corruption, il y a beaucoup de choses vraiment négatives qui se passe, mais toujours je dis avec mes amis musulmans, mes amis yézidis, il faut être plus rapide que Daesh et faire des choses avec une pérennité. Et vous savez maintenant, ce qu'on fait, on essaye vraiment d'arrêter les actions fondamentalistes par la culture, parce qu'il n'y a que la culture qui peut arrêter la violence.
Saba voudrait lui aussi que sa musique serve à la reconstruction de Mossoul. Il joue du oud, un instrument qui remonte à 3500 ans, le grand-père de la guitare. Susanna Abdulmajid est comédienne. Elle mise, elle, sur le théâtre. Elle a joué dans la pièce Oreste à Mossoul cette année. Aider les Irakiens à faire vivre Mossoul, c'est une des priorités d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.
C'est très important que la communauté internationale se mobilise pour cette reconstruction-là. Et nous avons lancé l'an dernier un appel à la solidarité internationale. Nous avons réuni un peu plus d'une centaine de millions de dollars déjà, ce qui est beaucoup. Le défi maintenant qui est devant nous, c'est de faire cela dans la durée. Nous ne travaillons pas uniquement sur la partie du patrimoine physique et matériel, mais on aide aussi, par exemple, l'enseignement primaire. On aide aussi la partie de vie culturelle, qui sont des lieux de discussion, qui sont des lieux de partage, qui sont des lieux d'échange. On a entendu une actrice qui, à travers le théâtre grec, parle aussi de justice, de la dure loi des hommes aux Mossouliotes d'aujourd'hui. C'est ça aussi qui est tragique, c'est que c'est ces rapports humains qui ont été extrêmement abîmés par Daesh, qui a monté les communautés les unes contre les autres. Et c'est ce rapport humain aussi qu'il faut aider à reconstruire, à retisser.
Et pour finir, cette histoire vraie survenue à Madrid, une Espagnole a voulu assassiner son compagnon à qui elle reprochait de multiples arnaques qui lui ont fait perdre 60 000 euros. Elle engage alors son gendre comme tueur à gages, mais voyant que le meurtre n'arrivait toujours pas, la mère et la fille sont allées au commissariat pour dénoncer 1) l'escroquerie du compagnon, 2) le contrat non rempli par le gendre. Inutile de dire que les deux femmes et le beau-fils ont tous été arrêtés. L'individu dont ils avaient projeté l'assassinat se trouve, lui, en parfaite santé, précisent les enquêteurs qui avaient là affaire à un scénario digne d'un film de Pedro Almodovar.
Merci à vous, Nabil Amel. À dimanche prochain, la météo, les dernières heures de la canicule avec un net rafraîchissement par le Nord-Ouest. Édition préparée avec M. Le Chili, à la technique, Laurie Vachon.